Le journal Loïc Barrière. Un mort dans une attaque à l'entrée de la colonie israélienne d'Ariel en Cisjordanie. Un Palestinien a par ailleurs été tué dans la localité d'Azoun, également en Cisjordanie. En France, deux associations pro-palestiniennes autorisées à reprendre leurs activités par le Conseil d'État. Elles avaient été dissoutes le mois dernier. Le 21e anniversaire du printemps noir en Kabylie, entretien avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Emmanuel Macron va renforcer le soutien militaire et humanitaire à l'Ukraine. À la veille du 1er mai, la CGT demande à Emmanuel Macron d'augmenter tous les salaires, notamment le SMIC, à 2000 euros brut. Enfin, le 35e anniversaire du décès de la chanteuse Dalida, nous écouterons Jacqueline Jondeau qui a écrit le livre « Dalida en Égypte » chez Orient Éditions. C'est ce soir qu'aura lieu la nuit du doute à la Grande Mosquée de Paris. Les théologiens se réuniront pour déterminer la date de la fin du Ramadan et de l'Aïd el-Fitr. La commission théologique comprend des membres de la Grande Mosquée et de 4 fédérations musulmanes. La date sera annoncée en direct sur Radio Orient et sur notre page Facebook. Situation toujours tendue au Proche-Orient. La nuit dernière, un Palestinien a été tué lors d'affrontements avec les forces israéliennes. Cela s'est passé dans la localité d'Azoun, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Par ailleurs, un garde a été tué ce vendredi dans une attaque à l'entrée de la colonie d'Ariel en Cisjordanie. Et les deux assaillants ont pris la fuite en voiture. Après l'attaque, les forces israéliennes ont mené une chasse à l'homme et ont arrêté plusieurs Palestiniens. En France, le Conseil d'État suspend la dissolution de deux associations pro-palestiniennes, le collectif Palestine Vaincra et le comité Action Palestine. Ces deux associations avaient été dissoutes le 9 mars à l'initiative du ministre de l'Intérieur qui les accusait d'incitation à la haine, à la discrimination et à la violence. Le Conseil d'État les autorise donc à reprendre leurs activités. Il estime que les dissolutions ne se fondent pas sur des faits établis. Il y a 21 ans, la Kabylie défiait le pouvoir dans la rue, des manifestations réprimées par le gouvernement algérien. L'anniversaire de ce printemps noir a été marqué ces derniers jours par plusieurs arrestations visant des manifestants à Tizi Ouzou. Entretien avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
À l'époque, c'était des manifestations, parce qu'habituellement, en Kabylie, il y a toujours des manifestations depuis très longtemps, surtout le 20 avril 1980, le 20 avril de chaque année, pour rappeler un peu ce qui s'est passé. Et cette année-là, effectivement, il y a 20 ans, il y a eu des manifestations, il y a eu un lycéen qui s'appelait Massine Issa Germah, qui manifestait avec d'autres jeunes et qui a été pris dans une brigade de gendarmerie. Il a été tabassé et après le jeune est mort. Ce décès a provoqué la colère de la population dans toute la Kabylie, y compris à Alger et dans d'autres villes. Et il y a eu des manifestations donc massives pour dénoncer les crimes, dénoncer ce qui s'est passé, revendiquer une enquête. Évidemment, la personne ou le gendarme qui a provoqué ou qui était donc responsable de ce qui s'est passé a été arrêté, a été jugé, mais cela n'a pas suffi pour, si vous voulez, apaiser la tension et calmer la colère de la population, qui a revendiqué toujours plus de liberté, qui a critiqué le pouvoir de Abdelaziz Bouteflika à l'époque, parce qu'Abdelaziz Bouteflika, au début de son mandat, ne voulait pas du tout entendre parler de la reconnaissance de Temesirte comme langue nationale, ne voulait pas du tout entendre parler de cette revendication culturelle et critiquer souvent ceux qui en font appel. Et donc cette manifestation a été suivie par d'autres, notamment à Alger, où il y a aussi des interventions musclées des services de l'ordre a fait que parfois les manifestations dérapent, il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup d'arrêtés. Et il y a eu un mouvement qui s'est constitué à l'époque, qui s'appelait le mouvement d'Arouche, qui rassemblait un peu, si vous voulez, les comités de village de la Kabylie pour essayer de trouver un interlocuteur au pouvoir République. Ça a pris beaucoup de temps, mais il y a eu quand même des évolutions depuis. Et effectivement, chaque année, on se rappelle ce qui s'est passé par rapport à cette réaction qualifiée de disproportionnée par les militants politiques de la cause Amazigh.
C'est ainsi qu'est née la plateforme d'Elxer, hein, qui portait de nombreuses revendications.
Oui. D'ailleurs, Belaïd Amerika, qui est un des leaders du mouvement de comités, bien sûr, les comités de village, les Arouches, comme on les appelle, ont été critiqués aussi à leur création, pour un rappel, hein, notamment par le FFS, qui trouvait que à l'époque, la meilleure façon de d'encadrer la population et de porter ses revendications, c'est à travers les partis. Et des partis, le FFS, par exemple, est un des partis les mieux implantés en Kabylie. Mais disons que effectivement cette plateforme est née après la contestation, et elle portait beaucoup de revendications liées notamment à des revendications anciennes parfois, hein, parfois anciennes, par rapport à la reconnaissance de Tamazir, notamment à l'enseignement, dans l'administration, la reconnaissance aussi de ce qui s'est passé en 1980, comme 1900 aussi, même lors du printemps noir, les revendications de vérité, de liberté, de justice, de tout, de dire tout ce qui s'est passé. Donc cette revendication, parfois, sur certains points, était concrétisée, d'autres non.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie, il répondait à François-Xavier de Calonne. Entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, l'entente est proche. C'est du moins ce qu'affirme le premier ministre irakien, Mustafa El-Kazemi, un pronostic optimiste qui intervient alors que Téhéran et Riyad ont repris leur pourparler à Bagdad. La France va renforcer l'envoi de matériel militaire à l'Ukraine ainsi que son aide humanitaire. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée après un entretien entre Emmanuel Macron et le président Volodymyr Zelensky. À la veille du 1er mai, Philippe Martinez appelle le gouvernement à préférer les hausses de salaire aux aides ponctuelles. Le leader de la CGT estime que la priorité est d'augmenter tous les salaires et notamment de porter le SMIC à 2000 euros brut, un SMIC qui atteindra 1645 euros à partir de dimanche. Philippe Martinez assure par ailleurs que le recul constaté du chômage repose sur le développement de la précarité. Mardi 3 mai, cela fera 35 ans que la chanteuse Dalida est morte. À cette occasion, son frère Orlando sort un coffret intitulé « 35 ans déjà ». L'écrivaine Jacqueline Jondot publie, elle, « Dalida en Égypte », un livre publié chez Orient Éditions. Comment expliquer l'attachement du public à cette chanteuse née en Égypte? On écoute Jacqueline Jondot.
Je crois que Dalida était une personne dont la personnalité attirait beaucoup les gens, parce qu'elle avait cette espèce de simplicité qui faisait qu'elle semblait complètement accessible. Et elle était accessible parce que moi j'ai eu des témoignages de gens qui l'ont rencontrée, et elle avait une attention pour les gens qui l'aimaient. Donc je pense que c'est ça qui a marqué les gens, et que en plus elle a eu une vie sentimentale extrêmement triste, et je pense que beaucoup de gens finalement avaient un sentiment pour elle dans ce sens-là. Quand on voit des gens qu'on aime tristes, on s'attache à eux, et puis on souffre pour eux. Donc je pense que cette souffrance d'une femme qui réussissait partout, qui avait tout pour être heureuse et qui n'était pas heureuse, ça ne pouvait que toucher les gens qui l'aimaient, qui l'admiraient.
Alors Dalida est restée proche de son Égypte natale tout au long de sa vie. Elle a chanté aussi en arabe.
Oui, Dalida, d'abord au début, quand elle est venue en France, elle avait encore sa famille en Égypte, donc elle est revenue en Égypte, et puis pour les voir, et puis il y avait des gens qui l'admiraient, des Égyptiens qui l'admiraient, et donc elle est revenue régulièrement en Égypte, donner des concerts, rencontrer des gens, effectivement, Enfin, tous ces Égyptiens, tous ces Moyen-Orientaux qui l'admiraient, attendaient qu'elle ne chante en arabe, et c'est ce qu'elle a fait effectivement dans les années 70, grâce à un poète, Salabahine, qui a écrit des textes pour elle en arabe, et puis elle suivait attentivement la vie politique du Moyen-Orient, d'Égypte. C'est sa chanson qui a accompagné le président Sadat quand il est allé à Jérusalem, à la Knesset. Et puis, quand il est mort, elle lui a dédié une chanson, une très très belle chanson. Et puis, l'Égypte, c'était son dernier et plus éblouissant film, je crois, Le Sixième Jour, avec Youssef Chahine. C'était une espèce de retour aux sources vers cette Égypte où elle était née, dans un quartier qui était à la fois très cosmopolite mais aussi populaire. Donc elle est revenue là, et elle a eu ce triomphe absolument extraordinaire lorsque le film est sorti, où les rues étaient complètement engorgées par le quand elle allait au cinéma de son quartier pour y donner la première de ce film.
Est-ce que Dalida a un nouveau public depuis sa mort ? Est-ce que des jeunes ont appris à la connaître ?
Oui, elle est toujours très... Je parle pas de la France, je vous parle de l'Égypte, que je connais beaucoup mieux. Elle a effectivement un public jeune. Quand vous entendez des radios en Égypte, très souvent vous entendez la voix de Dalida, effectivement. Oui, j'ai rencontré une jeune fille dans une maison d'édition qui me disait que dans sa chambre, il y avait un poster de Dalida. Et que pour elle, c'était une véritable idole, en fait. Et elle collectionne ses disques, ses livres. Donc il y a toute une jeune génération qui s'y intéresse. Et je pense que peut-être le film, le biopic qui a été tourné il y a quelques années quand il est sorti en Égypte, a eu un grand succès. Même si on trouvait qu'on ne parlait pas suffisamment d'Égypte dans ce film. Mais je pense que ça a aussi renouvelé l'intérêt d'une population plus jeune, en fait. Parce qu'ils l'ont peut-être aussi découverte au cinéma. Et puis il y a cette jeune chanteuse Farah El-Dibani, qui est égyptienne, qui chante aussi son répertoire de temps en temps. Donc ça aussi, ça peut aussi expliquer le renouveau de l'intérêt pour Dalida auprès d'une jeune génération. Le souvenir de Dalida est entrevenu par son frère. Je pense que de toute façon le souvenir est vivace, mais il est vrai que Orlando effectivement joue un rôle très très important. Il a toujours été dans l'ombre de Dalida. Il n'a jamais fait une véritable carrière, un peu étouffée par sa sœur, mais il lui a tout donné, il lui a tout consacré. Et je pense que effectivement, la façon dont il fait vivre son héritage, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas juste de ressortir des disques comme ça, mais de donner une nouvelle vie aussi à des choses qui étaient peut-être passées un petit peu inaperçues lors de sa vie. Je pense que ça aussi, ça joue dans ce nouvel engouement des jeunes générations qui la redécouvrent. Et puis Dalida a été elle a su passer au-delà des modes, c'est-à-dire qu'elle a su s'adapter, elle a su comprendre les mouvements d'évolution de la musique aussi, ce qui est très important. Elle n'est pas restée cantonnée à une certaine époque, elle n'est pas restée à Bambino. Enfin, je veux dire, elle a évolué avec le temps, et je pense que ça aussi, ça permet aussi à Orlando justement de poursuivre cette dynamique qu'elle avait engendrée.
Jacqueline Jondot, elle publie Dalida en Égypte, un livre publié chez Orient Éditions. À 19h dimanche, l'invité de la bibliothèque de Radio Orient sera l'écrivain Gilles Paris pour son roman Un bal de cendres aux éditions Plomb, un livre qui nous fait découvrir l'île volcanique de Stromboli, extrait de cette émission.
Je crois que j'y suis passé la première fois, en fait, une après-midi, quand on fait des escales comme ça sur les îles italiennes, et j'avais été très frappé par la luminosité de l'île, et puis ce côté assez authentique. C'est une île de pêcheurs, hein, c'est une île qui a absolument envahi l'été par les touristes. C'est pas une île où on se prélasse, c'est pas une île où on vient passer 15 jours, on y passe généralement 2-3 jours, on vient escalader le volcan, surtout, qui est très imposant, qu'on voit aussi bien en arrivant de Palerme que de que de Naples ou d'autres endroits. On ne voit que lui en arrivant. Et d'ailleurs, quand on se promène dans Stromboli, qui est une assez grande île, assez étalée, quel que soit le restaurant où l'on s'assoit, quelle que soit la ruelle qu'on prend, le volcan est toujours là, il est omniprésent, à tel point d'ailleurs que les habitants de Stromboli l'appellent Idu, qui veut dire lui, c'est-à-dire qu'ils l'ont réellement personnalisé, comme tous les gens qui habitent d'ailleurs dans des îles volcaniques, ils se sont habitués au volcan. Il faut savoir que le volcan de Stromboli éructe littéralement toutes les 5 minutes, il y a un filet de fumée qui s'en échappe, et qu'il y a eu plusieurs catastrophes déjà sur l'île dans le temps passé, en l'an 2000, notamment un tsunami qui a ravagé l'île, et dans les années 30, 1930, un énorme pan de montagne qui s'est écroulé dans la mer et qui a provoqué la colère des dieux en quelque sorte, la colère du tsunami, la colère du volcan en l'occurrence. Et moi, c'est une île que j'aime parce que je la trouve, je suis un habitué des îles italiennes et je trouve que Stromboli est à part parce que c'est une île qui se mérite. Elle est âpre, elle est rude, elle est enchanteresse quand vous vous promenez dans les sentiers qui l'abordent, elle est âpre quand vous montez le volcan. Et au fond, cette idée de passage dans cette île qui, l'hiver, ne contient que 300 habitants, et l'été, on peut les compter par milliers, par centaines de milliers même d'ailleurs, ces touristes de passage, il faut savoir que toutes les plages de l'île sont des plages volcaniques au sable noir, et qu'à un mètre du bord, vous n'avez plus pied, ce qui veut dire que c'est pas vraiment des plages familiales, on y voit d'ailleurs assez peu d'enfants, on les voit escalader le volcan, et eux, par contre, l'escalade à toute vitesse.
Gilles Paris, il est l'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h. Cette édition est terminée. Merci de votre fidélité.